Et voici un média régional citoyen qui est financé uniquement par celles et ceux qui veulent bien donner de l'argent. Et il y a des gens qui tiennent à l'indépendance de l'information. Splan, qui veut dire clair en breton, réalise donc des enquêtes. Ce sont des journalistes professionnels qui mènent ces enquêtes sur des sujets régionaux. Ce trimestre, la dernière enquête en date a été menée par Julie Lalouette-Geffroy. Elle s'est intéressée au maquis de la transmission des terres agricoles. Pas simple, il y a des enjeux alimentaires. Y aura-t-il assez d'exploitation, mais aussi des enjeux climatiques, quel mode de production, des enjeux financiers aussi. C'est donc un domaine régulé. Pour s'installer en agriculture, il y a des conditions.
Pour pouvoir s'installer dans le secteur agricole, il y a plusieurs moyens d'y parvenir, mais effectivement, il faut respecter des procédures. Il faut être d'abord diplômé, donc avoir suivi des formations. Il y a un parcours d'installation, généralement chapeauté par les chambres d'agriculture. En tout cas, c'est le cas en Bretagne. Et après, il faut avoir deux éléments. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les terres, en être propriétaire ou avoir un bail, un fermage. Donc ça, c'est un premier élément qui est nécessaire. Et le deuxième, il faut une autorisation d'exploiter. Souvent, la comparaison est prise avec les voitures. Par exemple, c'est-à-dire que pour pouvoir conduire, il faut le permis de conduire et la voiture. Là, c'est un peu pareil. Il faut les terres en propriété ou en fermage, en location et l'autorisation d'exploiter.
Alors, la France a plusieurs problèmes vis-à-vis de son agriculture et donc il y a une politique agricole nationale qui est aussi un reflet sans doute de la politique européenne. Quelles sont les intentions, en tout cas, dans la mise en place de ces procédures pour être agriculteur ?
Alors, ce qui est assez formidable, c'est quand même de remarquer qu'il y a un consensus absolument général et unanime sur le besoin de renouveler les générations agricoles. Et c'est quand même un petit peu le point de départ de la réflexion, c'est-à-dire que ce soit à l'échelle européenne, nationale, régionale, entre les différents syndicats agricoles, tout le monde est d'accord pour dire que le renouvellement des générations est un point essentiel. Il y a eu deux rapports parlementaires là-dessus, un en 2018, un en 2021, et les deux appuient sur le fait que le foncier agricole, les terres agricoles, c'est le levier essentiel pour pouvoir installer justement des agriculteurs. Donc là-dessus, il y a quand même un consensus sur l'intention, parce que pour se donner un ordre de grandeur, en Bretagne, en gros, un départ à la retraite sur trois est remplacé. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de renouvellement des générations qui est essentiel pour les années à venir.
Et dans la politique agricole, il y a aussi le souhait, théoriquement, de limiter les surfaces agricoles moyennes des fermes, c'est ça ?
C'est important, en fait, d'avoir des exploitations qui ne sont pas forcément trop grandes. Enfin, ce n'est pas vraiment la question de la taille. En fait, c'est plutôt la question, on appelle ça l'agriculture familiale. Et ce qui est important dans l'agriculture familiale, c'est que, dans cette définition, c'est que la personne qui a les moyens de production, c'est-à-dire les terres, les bâtiments, l'équipement, les cheptels, et la personne qui détient les capitaux, ce soit la même personne, donc en fait c'est le principe d'une entreprise classique, et d'avoir cette marge de manœuvre là, avec des tailles qui sont pas trop importantes, permet d'avoir en fait une diversité et une diversité économique. Et ça, c'est ce qu'expliquent par exemple les Nations Unies sur le fait que l'agriculture familiale, c'est le modèle le plus résilient. Et donc résilient, c'est-à-dire en capacité de faire face aux aléas de notre époque, que ce soit des aléas climatiques, économiques, mais aussi sociales. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'est simple, hein, c'est si on met tous nos œufs dans le même panier et qu'il y a un problème, il y a une épidémie par exemple ou une maladie qui touche, je sais pas moi, les poireaux. Si tout le monde fait des poireaux, et ben toutes les entreprises se cassent la figure. Alors que si on a des entreprises diversifiées au niveau de leur production, mais aussi de leur modèle économique, et bien là, dans cette diversité-là, en fait, on pourrait être plus résistant. Donc c'est pour ça que c'est un modèle qui est plutôt promu, mais c'est aussi parce que des exploitations trop grandes amènent forcément de la sous-traitance, c'est-à-dire que la personne qui est à la tête de plusieurs entreprises agricoles, ce n'est pas elle qui va dans les champs, évidemment, elle prend des salariés, et en fait, mais aussi du coup là, des ouvriers qui sont en dehors de l'entreprise. Donc on voit le développement d'une sous-traitance qui est en train de se développer en Bretagne, ce qui pose des questions au niveau des modèles économiques et des rapports de force après politiques.
Et sinon, dans les intentions officielles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ou dans les objectifs officiels, qu'est-ce qu'il y a d'autre éventuellement à signaler ?
En fait, c'est un objectif général de souveraineté alimentaire, et ça, c'est dans le code rural en fait français depuis l'après-guerre, qui considère que l'agriculture n'est pas un bien comme un autre et qu'il doit être régulé. C'est pour ça que ça fait partie intégrante des objectifs de l'État et que c'est intégré dans le code rural. Donc, il y a cet objectif de souveraineté alimentaire, ce qui veut dire pouvoir fournir des biens des produits alimentaires de qualité abordable pour tous. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier et c'est ça qui justifie qu'il y ait une régulation ensuite de l'État pour atteindre cet objectif-là. Donc là, après, il y a deux régulateurs qui interviennent justement pour gérer d'un côté les ventes de terres, en l'occurrence la SAFER. Donc ça, c'est le régulateur qui gère les ventes de terres et un deuxième régulateur qui s'appelle la CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole. C'est une commission qui réunit les services de l'État et les représentants du milieu agricole et rural. Et cette instance, ce deuxième régulateur, va gérer les autorisations d'exploiter. Donc ces deux régulateurs-là doivent servir l'objectif du Code rural, la souveraineté alimentaire.
Alors on va les détailler un peu plus. Alors la SAFER, alors qu'est-ce que c'est, enfin en quoi ça consiste ?
La SAFER, c'est un organe donc, de régulation. Donc, c'est une entreprise ayant une mission d'intérêt général, donc une mission publique. Donc on est proche des logiques des déclarations des délégations de services publics. Quand une entreprise est vendue, en fait, la SAFER, elle, dans ses objectifs, elle doit réguler le prix du foncier et s'assurer que les orientations agricoles. Donc, c'est-à-dire qu'un projet, par exemple, si quelqu'un veut acheter des terres pour cultiver quelque chose qui ne rentre pas en cohérence avec les objectifs de la région et de l'État, la SAFER peut intervenir. Donc, et en fait, ce rôle-là, à l'échelle européenne, en fait, ça, il nous est quand même assez envié, hein, parce que il faut parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre l'échelle locale et l'échelle internationale, et en l'occurrence européenne. En moyenne, donc évidemment c'est une moyenne, en France on est à 6000 euros l'hectare et dans le reste de l'Europe, sur des marchés qui sont assez similaires aux nôtres, et je pense un petit peu à l'Italie par exemple, mais il y aurait aussi l'Espagne, l'Irlande, enfin voilà, où il y a des points communs, évidemment c'est pas identique, on a 30 000 euros l'hectare. Si on prend les Pays-Bas, là où c'est le plus élevé, on est à 90 000 euros l'hectare. Et les plus faibles en Europe, plutôt vers la Croatie, la Bulgarie, on est à 3 000 euros l'hectare. Donc on voit quand même que la France se situe quand même à un niveau assez accessible, parce que ça correspond à l'investissement de base. Quand on veut s'installer, c'est 6 000 euros l'hectare, plus les bâtiments, le matériel, et ainsi de suite. Donc ce rôle de régulateur, la SAFER essaie de le remplir pour lutter donc contre la spéculation foncière, et elle peut aussi intervenir dans une vente, voire la casser, si elle estime que le modèle agricole, que le projet agricole ne coïncide pas avec les objectifs de la politique agricole.
Donc quand un propriétaire terrien de terre agricole décide de vendre sa terre, il peut passer par la SAFER et c'est la SAFER qui va regarder les candidatures, c'est ça, à l'achat en fait.
Oui, c'est ça, il peut. Mais en fait, ce qui se passe, en fait, il y a plusieurs options. Si je veux vendre mon bien, j'ai déjà un repreneur, on est d'accord sur le prix, je peux aller directement chez le notaire et je peux vendre mon entreprise d'un bloc. Donc je lui vends toute mon entreprise. Là, la SAFER va recevoir une notification de la part du notaire qui est obligatoire et automatique. Et la SAFER se dit, le prix est correct, tout va bien, je n'interviens pas. Oui, elle pourrait intervenir si elle estime que le prix... Parce que si moi j'ai trouvé mon repreneur, on est d'accord sur le prix, mais le prix est à 30 000 euros l'hectare, par exemple. La SAFER pourrait intervenir en disant, non, c'est beaucoup trop cher. Parce qu'en fait, en faisant ça, on fait monter le prix du marché, dont pour tous les autres agriculteurs. Donc la SAFER, elle a vraiment ce rôle-là de régulation, de faire tampon. Donc la SAFER pourrait intervenir. Après, on peut aussi déléguer la vente à la SAFER, c'est-à-dire se dire, j'ai un repreneur ou j'en ai pas, je préfère déléguer ça à la SAFER, comme ça tout est fait correctement, il gère les papiers, il gère la négociation financière, on délague. Ce qui est tout à fait possible aussi. Et après, on peut aussi tout à fait échapper à la SAFER, c'est-à-dire que la SAFER ne peut intervenir que quand une entreprise est vendue en un seul bloc. Donc le meilleur moyen d'éviter que la SAFER puisse intervenir, c'est de la vendre en plusieurs morceaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rachat par part sociale, qui est très très utilisé. Donc c'est-à-dire, au lieu de vendre mon entreprise en une seule fois, je la vends en trois fois, en trois morceaux. Et là, la SAFER ne peut pas intervenir. C'est un procédé qui est 100% légal, mais qui est très utilisé. Donc c'est un des procédés qu'on détaille dans l'enquête. Et il y en a d'autres, mais ce sont des procédés qui sont assez connus. Et là-dessus, la SAFER ne peut pas intervenir.
L'autre instance, la CDOA, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors la CDOA, c'est la Commission départementale d'orientation agricole. Elle réunit des services de l'État et des représentants du milieu agricole et du milieu rural. Globalement, ce sont les mêmes institutions et voire les mêmes personnes qui siègent dans les comités techniques départementaux de la SAFER et dans les commissions départementales de la CDOA. Globalement, ce sont les mêmes personnes. Elles, son rôle, la CDOA, c'est d'attribuer les autorisations d'exploiter. Parce qu'en fait, sur une parcelle, s'il y a un agriculteur qui exploite une parcelle, eh ben, c'est pas quelqu'un d'autre, forcément. On peut pas être à deux à exploiter la même parcelle. C'est l'un ou l'autre. Et donc, c'est la CDOA qui va trancher quand il y a deux concurrents qui veulent aller sur la même parcelle. Et pour pouvoir les départager, il y a un document directeur régional qui a été rédigé, qui en gros fixe les règles du jeu et les règles de priorité. Par exemple, celui qui est valable actuellement précise qu'une installation en bio sera prioritaire sur une installation en conventionnel, par exemple. Et c'est comme ça qu'on examine différentes candidatures pour pouvoir trancher. Donc ça, c'est sur le principe, ça c'est la théorie. Mais finalement, le meilleur moyen d'éviter la concurrence, bah, c'est de l'éliminer avant même qu'elle s'exprime. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a entendu dire que quelqu'un veut s'installer et va se mettre en concurrence par rapport à soi, et que ça nous arrange pas. Par exemple, si moi je veux m'agrandir et que je sais que ma voisine veut s'installer, je sais que devant la CDOA, elle va me passer devant parce qu'elle sera prioritaire. Donc le meilleur moyen, je sais pas si c'est le meilleur moyen, mais en tout cas un moyen efficace, eh bien c'est d'aller l'intimider. Et c'est ce que par exemple raconte Valérie dans l'enquête, où elle raconte avoir reçu des coups de fil tous les jours, des gens qui viennent frapper à sa porte pour la convaincre de retirer sa candidature. Et c'est ce qu'elle a fait au bout de 4 mois.
Et il y a même des agriculteurs pas gênés qui viennent occuper une parcelle qui n'est même pas à eux, en fait, c'est ça, enfin, qui leur a pas été, sur laquelle ils n'ont pas d'autorisation.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, à vrai dire. C'est ce qu'on appelle les exploitations illégales. Donc, c'est effectivement le fait d'exploiter une parcelle sans autorisation d'exploiter. Parce que, en même temps, qu'est-ce qui va se passer si j'exploite une parcelle sans cette autorisation d'exploiter? Eh bien, il faut bien que quelqu'un aille me signaler. Parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir un agent des services de l'État derrière chaque agriculteur pour savoir s'il a bien la bonne autorisation d'exploiter dans la poche. Donc finalement, généralement, c'est une personne lésée, donc quelqu'un qui a l'autorisation d'aller sur cette parcelle-là et qui ne peut pas parce que le voisin est entré avant lui, qui va le signaler aux services de l'État, ce qui va déclencher une mise en demeure, une régularisation, voire une amende. Donc en fait, il y a vraiment l'idée des services de l'État qui comptent vraiment fortement sur les habitants, pour pouvoir savoir quelles sont les exploitations illégales ou pas. Ce qui pose encore d'autres questions quand même, de se dire, ce sont les citoyens qui vont finalement faire ce rôle de vigie et de contrôle.
Alors pour résumer les moyens de contourner ces dispositifs de régulation, en gros il y a la vente à la découpe des terres agricoles, c'est ça?
Exactement.
Et ça débouche sur des donc quoi, sur des exploitations immenses, voire des Chinois qui possèdent des terres agricoles françaises, c'est ça?
Bah effectivement, on peut arriver sur des exploitations très très importantes. Bon, il y a une tendance générale à l'agrandissement en Bretagne comme partout en France, qui est hyper logique parce que c'est le fruit d'une politique nationale agricole déclenchée à partir de la Seconde Guerre mondiale de concentration, de mécanisation de l'agriculture française. Donc là-dessus, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait un agrandissement général. Pour essayer de se donner un ordre de grandeur, une exploitation moyenne en Bretagne a récupéré 14 hectares de plus entre 2010 et 2020. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance à l'agrandissement général, mais il y a aussi des énormes exploitations. C'est-à-dire que dans l'enquête, on voit qu'il y a des exploitations qui font 1000 hectares ou plus. Alors 1000 hectares, c'est pas très facile de se rendre compte. 1000 hectares, c'est à peu près la superficie de Guingamp. Donc on se rend compte que c'est un petit peu grand. Et quand on compare à la surface moyenne d'une exploitation en Bretagne, c'est 62 hectares. Donc une ferme moyenne, c'est 62 hectares. Là, on a des exploitations de 1000 hectares, voire 1500 hectares. Donc on voit quand même qu'il y a un décalage très très important. Et en plus, ces exploitations-là échappent complètement aux régulateurs ou complètement aux services de l'État. C'est-à-dire que ces exploitations de 1000 hectares, en fait, elles sont, c'est pas une exploitation avec un seul siège agricole, et hop, il y a 1000 hectares d'un bloc. En fait, non, ce sont plusieurs entreprises imbriquées les unes dans les autres. Et quand on cumule chacune de ces entreprises avec les hectares qui correspondent, en cumulé, on a 1000 hectares, 1500 hectares.
Dirigées par la même personne, en fait, par une famille.
Tout à fait, dirigé par la même personne, exactement. Et on voit bien, en fait, que là, ces montages compliqués, qu'on pourrait appeler, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des espèces de groupes agricoles ou des conglomérats agricoles, enfin, je sais pas quel serait le terme le plus adapté, mais en tout cas, ils existent. Et les services de l'État ne sont pas capables de dire combien est-ce qu'il y en a. Quand on demande aux services de l'État combien y a-t-il d'exploitations de plus de 1000 hectares en Bretagne, pas de réponse, voire ça n'existe pas. Et le « ça n'existe pas » s'explique parce que dans le recensement agricole, on recense une exploitation, un siège d'exploitation et une surface. C'est tout. Alors que l'imbrication les unes dans les autres n'est pas mesurée. Donc là, on a un angle mort terrible. Et c'est, du coup, ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une politique agricole, enfin nationale et en l'occurrence la régionale, si on ne connaît pas le paysage agricole breton.
Et justement, est-ce que le, il y a des, enfin là, c'est une question un peu subsidiaire, mais est-ce qu'il y a des projets de loi pour essayer de changer ces choses-là?
Tout à fait, il y a quand même des choses qui bougent. C'est vrai que là, on est sur le constat du présent, mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même un virage qui est en train de s'amorcer, parce que déjà, bon, il y a des affichages politiques avec une intention de renouveler les générations, une promotion de l'agriculture familiale à taille humaine, etc. Et aussi une image d'Épinal qu'on entend souvent, hein, de la Bretagne, terre d'élevage, avec une agriculture familiale de 62 hectares. Donc il y a quand même un discours politique. Quand on prend dans les documents, il y a un document directeur breton, attention, encore un sigle, qui s'appelle le SDREA. C'est ce document qui fixe les règles du jeu pour départager deux candidats. Ce document, il est en train d'être révisé. Il est en train de faire monter l'installation dans le haut des priorités, devant l'agrandissement. Donc après, il faut qu'il soit finalisé, validé, publié, puis mis en application et qu'on en voit les effets. Donc voilà, c'est difficile d'avoir de pouvoir documenter ce que ça va produire. Néanmoins, il y a un premier pion important quand même qui est posé. Après, il y a la loi d'orientation et d'avenir agricole. Là, on est à l'échelle nationale, qui est en train. Là, il y a un avant-projet qui a été déposé mi-septembre vers le 10 septembre. On va y avoir encore là des allers-retours et des discussions en commission. Mais dedans, la question du renouvellement des générations est posée comme un axe prioritaire, dont le fait d'aller chercher des nouveaux viviers d'agriculteurs dans le milieu urbain. Ce qui va poser encore plein d'autres questions et plein d'autres problématiques. Mais en tout cas, cette question-là est identifiée et devrait être présente dans la loi d'orientation et d'avenir agricole en préparation pour la fin de l'année. Avec quel résultat, ça on ne sait pas encore.
Cette enquête complète, très didactique, est accessible en ligne gratuitement sur le site splande.org, splande avec deux N. N'hésitez pas à contribuer aussi au financement de cette très utile association.